ChatGPT est-il plus malin que nous? Peut-on lui faire vraiment confiance? C'est la question que nous posons dans ce nouvel épisode de Détour vers le futur. Fascinant, excitant, sidérant, on ne compte plus les adjectifs pour décrire cette expérience un peu étrange de discussion avec ce chatbot qui paraît presque humain, qui fait des réponses sensées, en bon français, sérieux hein, en tous les cas. Alors, ChatGPT est-il plus malin que nous? Qu'en pensez-vous? Et qu'en pensent nos experts, Marina?
Dominique Boulier, vous êtes sociologue, spécialiste du numérique, professeur des universités émérite à Sciences Po, et on compte sur vous pour mieux comprendre ce qui se cache derrière cette nouvelle percée de l'intelligence artificielle. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Farabeh Namarazitoun, vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Paul Sabatier et vous faites vos recherches à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Vous êtes spécialiste du langage et des machines et vous allez décrypter pour nous comment fonctionne ChatGPT. Bonjour Farah.
Bonjour.
Bon, alors avant de savoir s'il est plus malin que nous, Farah, on voudrait savoir comment ça marche ChatGPT.
Alors ChatGPT, c'est un logiciel qui est entraîné sur des très 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 grosses masses de données, donc en gros le web. Et l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un modèle de langue, c'est-à-dire représenter chaque mot et chaque phrase d'un texte par un vecteur. Et le vecteur contient donc des probabilités. Et donc l'idée, c'est de voir à quel point un mot est proche d'un autre sur la base de ce qu'on appelle la similarité sémantique. Et donc ça permet de projeter les mots dans un espace et ensuite de vérifier si les mots sont proches ou pas. Donc par exemple, si vous avez vendredi, d'un vendredi est proche de samedi, mais il est loin de fraise. Donc ça, c'est l'idée de base qu'on appelle la sémantique distributionnelle. Et donc ensuite, il y a un modèle neuronal qui va s'entraîner sur ces grosses masses de données par un algorithme qu'on appelle le Masked Language Model. Et l'idée, c'est de, étant donné une phrase, on va masquer un mot ou deux ou trois, et on va demander à la machine de deviner quelle est la suite.
Ça, c'est un exercice pour entraîner la machine, c'est ça?
C'est pour entraîner la machine, voilà. D'accord. Et donc ça, ce qu'on appelle la self-supervision, ça veut dire qu'on va entraîner le modèle à prédire la suite de la phrase ou la suite d'une séquence de mots. Et au fur et à mesure, on va du coup avoir des vecteurs qui vont s'apprendre au fur et à mesure. Et ensuite, grâce à ces vecteurs-là, on va pouvoir ensuite, étant donné une phrase, avoir une probabilité pour dire que la phrase suivante, elle suit naturellement ou sémantiquement la phrase d'avant, et ainsi de suite. Et ça, ça permet après de construire des paragraphes ou des textes plus ou moins cohérents.
C'est là qu'en fait, on voit que la différence par rapport à ce qu'on avait avant, qui n'était du coup pas des chatbots, mais des moteurs de recherche, est radicale. Parce qu'en fait, quand on mettait notre petite phrase, notre petite requête sur Siri ou sur Google ou Quant ou des choses comme ça, ça nous répondait une liste de sites internet, une sélection, plus ou moins remontée par un certain nombre d'algorithmes et de pratiques, alors que là, c'est vraiment une réponse qui est formulée à notre question à nous.
Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradigme de question-réponse, parce que les chatbots, c'est la nouvelle appellation, on va dire, moderne, mais la notion de question-réponse existe depuis les années, on va dire, 80, où on a essayé d'avoir des interfaces en langue naturelle pour interroger des bases de données. Ensuite, avec l'apparition d'Internet, etc., on a essayé d'avoir un palliatif aux requêtes à base de mots-clés, puisqu'en général, avec des mots-clés, on n'arrive pas à extraire le sens exact de ce qu'on veut. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des phrases et ensuite avoir la réponse exacte à la question. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux à partir des années 2000. Et après, avec l'avènement des réseaux de neurones, donc ça a permis d'avoir des réponses beaucoup plus pertinentes et aussi une analyse de la question beaucoup plus pertinente. Mmh. Donc, pour résumer, c'est une technologie qui est dans les tiroirs des laboratoires depuis très longtemps, hein, depuis, on va dire, la fin des années 2000 pour les aspects modèles de langue, mais bien, bien, bien avant pour les aspects interface en langue naturelle.
Dominique ?
Oui, alors la particularité aussi, c'est que justement, c'est avec cet agent conversationnel, cette dimension de l'agent conversationnel, ça rend les choses disponibles pour du grand public, ce qui était déjà travaillé dans les labos depuis très longtemps, mais là, en l'occurrence, c'est ça qui choque et qui frappe un peu les esprits. Mais n'oublions pas que sur la question des réponses, le problème était déjà posé, et c'était déjà la méthode de Google. N'oubliez pas, de mon point de vue, Google était devenu depuis longtemps un moteur de réponse. C'est-à-dire que dans sa position zéro, il vous donne une réponse écrite en langue naturelle. Et il ne vous donne plus de liens. Vous pouvez, il y a toujours les liens, c'est la différence. Mais l'état d'esprit est intéressant à percevoir. C'est-à-dire que ce sont des organisateurs de grands systèmes de connaissances qui vous orientaient vers la recherche, vers l'exploration avant. Et puis maintenant, on vous donne tellement une réponse satisfaisante apparemment à votre requête. Et quelquefois, vous vous dites, ça me suffit. Et donc, vous voyez, les moteurs de recherche eux-mêmes ont déjà abandonné comme tâche principale l'idée de vous orienter. Et c'est les prémices, j'allais dire, de ce qui se passe désormais sur l'ensemble de l'application qui, elle, devient conversationnelle en plus.
Oui, alors ce qui est fascinant quand même, c'est que ce que vous dites, c'est que il parle, la machine nous parle de manière statistique, mais elle ne comprend rien à ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas le sens, mais on cherche plutôt les occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois que des mots se suivent. Et c'est comme ça qu'elle parle finalement.
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est la...
Donc on peut parler sans rien comprendre à ce qu'on dit quand on est une machine.
Alors, c'est purement de la statistique, voilà. Et le fait que ça marche bien, c'est que l'entraînement se fait tellement sur de très, très gros volumes de données, c'est qu'au final, les occurrences font foi. Et sur une très, très grosse observation, la probabilité qu'un mot apparaît à un autre fait que, ben, on a des contenus qui sont cohérents.
C'est vrai que c'est ce que vous disiez, Dominique, c'est ce côté... c'est très facile, c'est très intuitif, et on le voit, enfin, là où c'était absolument sidérant, c'est la vitesse à laquelle tout le monde a voulu tester, parce qu'effectivement c'est facile, donc on dit à son voisin de table de le faire aussi. Et en gros, j'ai retrouvé des chiffres sur internet, alors c'est sur Statista pour la source, parce qu'on est sur quand même les questions de source. Ça a pris 5 jours à ChatGPT pour compter 1 million d'utilisateurs, là où, à titre de comparaison, ça a pris 5 mois à Spotify, 10 mois à Facebook et 3 ans et demi à Netflix. C'est vraiment beaucoup plus simple, effectivement.
Donc c'est un phénomène du point de vue marketing, j'allais dire, mais qui est un marketing qui se caractérise surtout par le fait qu'on offre une solution gratuite que vous pouvez du coup avoir sur votre laptop. Alors, y compris maintenant, il y a des versions où vous pouvez télécharger directement, même sans être en réseau, ce qui pose d'autres problèmes. Mais en attendant, cette version-là, vous pouvez l'utiliser et vous avez à ce moment-là un effet de propagation, évidemment. Je viens de travailler sur la propagation en matière d'innovation.
On va en reparler.
C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est effectivement une performance, mais qui est une performance basée sur une forme de coup de force, parce que ces modèles-là existaient déjà dans toutes les grandes entreprises, notamment dans les labos, mais les gens étaient prudents, c'est-à-dire qu'ils se retenaient en disant, il y a quand même des problèmes.
Oui, notamment... Et puis on a eu des exemples, avec Tay par exemple, le chatbot sur Twitter de Microsoft qui est devenu fasciste
exactement,
en deux heures.
Et Facebook, enfin Meta, avait déjà déposé un projet ouvert comme ça au mois d'octobre, et en réalité l'a retiré au bout d'une semaine parce que ça faisait des catastrophes. Donc ils se rendent compte, ils avaient été prudents, ce qui n'est pas toujours le cas de ces grandes firmes. Et là, en l'occurrence, OpenAI fait un coup de force en disant, moi je vais prendre le marché en étant capable de conquérir tout le public d'emblée, y compris sans se préoccuper des défauts qu'il peut y avoir, puisque effectivement on voit bien que on appelle ça des hallucinations, mais c'est une version un peu, comment dire, humanisante de l'intelligence. Mais en réalité, c'est des erreurs et c'est de la fabrique de faux délibérés, parce qu'il s'agit toujours de remplir. Donc moi, la première fois que je l'ai interrogé, effectivement, je lui ai posé des questions, je suis linguiste, je lui ai posé des questions de linguistique, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis à un moment, il m'a cité des auteurs, et il dit, ça c'est incroyable, je les connais pas. Et je croyais que c'était moi, je croyais que c'était de ma faute. Mais en réalité, pas du tout. Il avait inventé les auteurs, carrément. Ouais. Donc vous voyez un petit peu, le problème, c'est qu'on est... Vous évoquez la question des sources, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de source. Donc à partir de ce moment-là, vous devez vous-même vous mettre en posture de vérifier systématiquement tout ce qui est dit. Ce qui est problématique quand même, quand on met un produit sur le marché, on essaie quand même d'avoir une fiabilité suffisante.
Oui, c'est ça, normalement ça devrait être encadré, mais ça on va en reparler un tout petit peu plus tard. Simplement, juste la question aussi, c'est fascinant cette vitesse d'appropriation. Est-ce que ça signifie que les gens ont envie du numérique, ont faim du numérique? Est-ce qu'il y a un désir du numérique? Comment vous expliquez ça, vous qui êtes sociologue?
En fait, c'est beaucoup d'applications maintenant sont lancées comme ça. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'ai travaillé dans les tests utilisateurs. Donc, on faisait des échantillons. C'était très long, très coûteux, etc. Et on avait des petits échantillons. Maintenant, avec la flexibilité, la plasticité du code, si vous voulez, vous mettez les choses sur le marché, en utilisation ou en ouverte, si vous voulez, et vous vous retrouvez avec des tests grandeur nature. Parce que pendant ce temps-là, ChatGPT apprend.
Oui,
la firme OpenAI apprend aussi à partir de là. Et donc, vous avez la possibilité là, de générer des tests de très grande nature, qui du point de vue économique sont intéressants, et puis du point de vue sociologique, c'est effectivement avec le buzz qu'on connaît sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas testé ChatGPT, vous devenez carrément vite ringard.
c'est
quand même
essayé.
Et donc il faut avoir
vous
essayé,
pas très malin,
exactement, et sans parler d'avoir fabriqué des images, puisqu'il y a des versions
en plus
produit des images. Donc voilà, et cet effet d'imitation, il est devenu général. C'est le principe des réseaux sociaux actuels, de cette viralité. Et là, ils l'ont mis aussi, ils l'ont utilisé pour leur propre profit à un niveau extrêmement ordinaire.
Et alors, Farah, sur la base, parce que vous parliez de... Alors, c'est Laurent qui parlait de la base qui était Internet, et vous parliez d'un gros corpus, mais du coup, le corpus qui a alimenté ChatGPT, c'est quelque chose qui est comme sur Google, avec des contenus qui sont plus ou moins référencés, ou est-ce qu'on peut dire que c'est, entre guillemets, une base neutre ? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme.
Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par neutre, mais c'est tout le web, y compris les réseaux sociaux, les sites de versionning type GitHub, etc. Donc, c'est tout. C'est vraiment, voilà, ça glane tout. Mais y a donc, pas c'est ça la force aussi.
Il n'y a pas le même effet que sur Google, par exemple, où on sait qu'il y a des résultats qui arrivent en premier, qui arrivent en tête, parce qu'il y a toute une série de stratégies de marketing digital ou même de gens qui payent les moteurs pour arriver
faire
en
remonter,
tête.
Ouais.
Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser OpenAI et ChatGPT plutôt pour faire sa pub, son marketing? Comment on peut contrôler ce qui apparaît? Si, par exemple, je tape sur Quai des Savoirs, qu'est-ce que c'est que le Quai des Savoirs sur ChatGPT? Bon, je l'ai déjà fait. Il y a des années
alors
dedans.
Ça va se faire si ces applications sont pluguées dans des moteurs de recherche. Donc je pense que ça va arriver. C'est juste une question de temps.
Donc on sait bien que, excusez-moi, les moteurs de recherche eux-mêmes ont passé leur temps, et Google le fait toujours, je veux dire, à essayer de contrecarrer toutes ces stratégies de ce qu'on appelle les search engine optimizer, où vous essayez de pousser artificiellement de faire du jus de lien, comme on dit, c'est-à-dire vous créez des liens artificiellement pour essayer de vous faire monter. En réalité, ils ont des systèmes pour justement éviter ça. Maintenant, ils vont être obligés de réinventer un peu leur technique, mais ils le savent déjà, c'est pas trop un problème, pour essayer de rendre cela encore apparemment objectif. Alors vous voyez bien que c'est un vrai problème, puisqu'il y a quand même un dataset d'apprentissage, donc des données d'apprentissage qui forcément, même si elles sont énormes, il y a des moments, il y a des déséquilibres, il y a des choses qui manquent, etc. C'est pour ça aussi qu'ils ont aussi, et pour les raisons conversationnelles, là, du coup, qu'ils ont mis en place des ateliers où il y a un certain nombre de personnes, notamment au Kenya par exemple, on l'a dit, qui entraînent et qui vérifient la validité et surtout la correction politiquement correct et le moralement correct de certains nombres de réponses. Donc vous voyez qu'il y a toute une industrie, toute une partie back-office, comme on dit, derrière toute cette architecture qui est nécessaire pour, au bout du compte, valider les modèles qui vont être mis en place pour des raisons différentes, mais qui ne sont pas toujours explicites, qui posent un problème.
Complètement. Alors justement, je vous propose de faire un petit détour dans les archives de l'INA immédiatement pour retrouver comment on parlait des ordinateurs et de nos rapports avec ces machines intelligentes, ou peut-être sur le point de le devenir. On était dans la fin des années 60 et ça ressemblait à un jeu d'enfant.
Je lui ai mis des nombres et il m'a répondu tout de suite. Le champ a une surface de 1 km² et 1 hectare.
Alors, pas de prompt à l'époque, ces phrases de commande qu'on adresse au logiciel d'IA pour discuter ou produire des images. Non, à l'époque, on s'émerveillait pour une grosse calculette, finalement.
Bah dis donc, c'est formidable, mais elle sait compter, cette machine-là, hein ?
Sans les fils électriques,
ça. Oui, un ordinateur, ça calcule avec des fils électriques pour cette petite fille, même si elle n'a pas l'air de bien savoir comment. Et c'est bien ça le problème, parce que, y compris pour les chercheurs de l'époque, qui conçoivent et fabriquent des machines dont ils craignent déjà qu'elles leur échappent.
Quand nous aurons un système de machines formidable.
Professeur Walter Rosenblit au MIT en 1972.
Si par exemple on perdait la clé, est-ce que nous pourrions expliquer tout ce que ce système peut faire?
Si on perdait la clé de l'intelligence artificielle, si on ne comprenait plus comment nos propres machines fonctionnent, qu'est-ce qu'on deviendrait?
Le problème véritable, c'est le problème que l'homme doit pouvoir comprendre comment les machines que lui, il a créées, et les machines qu'à l'avenir, lui et les autres machines vont créer, comment on peut faire coexister ces machines.
Vivre avec nos machines et donc communiquer avec elles, dialoguer, collaborer. Comme dans cette fameuse série qui mettait déjà en scène un véhicule autonome, et on était seulement en 1982. Marina, tu as reconnu, j'imagine. Il s'agissait de quelle série ?
Comment oublier le générique de K2000 avec sa célèbre voiture Kit, conduite par David Hasselhoff et son non moins célèbre brushing.
Donc ça fait des années qu'on s'inquiète et qu'on s'interroge, y compris dans le monde scientifique, sur les risques ou même les dangers de l'intelligence artificielle. Farah, pour vous, quels sont ces principaux risques ou ces principaux dangers que peut générer ChatGPT ou un autre chatbot ? Parce qu'on parle de ChatGPT, mais il y en a plein d'autres.
Tout à fait. Alors Dominique a parlé des problèmes d'allusion. Hallucinations qui sont aussi, enfin, faut le dire, c'est des erreurs en fait qui font que on sort des noms et on associe des noms à des métiers ou à des bios qui n'existent pas. Mais aussi un problème de biais d'apprentissage parce que les données sont biaisées de par des stéréotypes de différents types. Et naturellement, les systèmes qui apprennent sur ces données apprennent aussi ces stéréotypes et ces biais. Donc naturellement, ils y ressortent aussi quand ils vous donnent des réponses. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour essayer de débiaiser les language models, pour essayer de réduire en fait le biais qui est inhérent à ces modèles, avec des résultats un peu mitigés sur des tâches d'application en traitement du langage. Mmh. Et après, on peut se poser la question, au-delà de des aspects computationnels, c'est si la nature ou les sources d'informations sont biaisées parce que l'humain, naturellement, il est comme ça, ben, est-ce qu'on veut qu'une machine soit complètement débiaisée? Donc ça, c'est une autre...
Du coup, la machine ne serait plus humaine puisque vous dites qu'un humain, il se trompe, il est biaisé. Voilà. Donc
il y a, c'est un problème de biais. Et puis l'autre problème qui se pose aussi, c'est tout ce qui est lié aux sources. Mm. Qui sont inexistantes. Alors, il y a maintenant des versions qui essayent de rajouter des sources explicitement pour pouvoir mieux aider à la compréhension des contenus. Mmh. Et aussi, au final, pour lutter contre ce genre de biais, par exemple, ou des messages haineux, etc., on voit qu'au final, l'humain n'est toujours pas loin. Il y a toujours des petites mains derrière qui est payé à moindre coût et qui visionne
les fameux travailleurs du clic.
Voilà, et qui sont aussi primordiales pour le développement de l'IA d'une manière globale, que ce soit du texte, mais aussi de l'image et de la vidéo, etc. Donc, pour l'instant, on ne sait pas faire sans des petites mains, là, qui...
Sans les petites mains du bout du monde.
Exactement.
Donc, pour l'instant... Oui, Denis.
Moi, un des problèmes essentiels qui justifie d'ailleurs toutes ces prudences à ce sujet-là, c'est effectivement que tout cela devient de plus en plus opaque. C'est-à-dire, moi, pourtant, j'ai toujours prôné l'intérêt du calcul et de l'informatique pour justement permettre d'expliciter les choses, ce qui est très difficile dans une organisation. Les gens n'ont pas tellement envie qu'on explicite les choses. Mais là, c'est l'intérêt, on explicite les choses pour mieux se réguler et se comprendre. Là, on a des systèmes qui deviennent de plus en plus opaques pour les développeurs eux-mêmes, pour les informaticiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de couches et un certain nombre de milliards de paramètres, vous ne pouvez plus savoir pourquoi telle relation a été pondérée de telle façon.
La fameuse clé dont parle le monsieur. Ouais.
Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres IA quand même qui fonctionnent, qui sont plutôt sur une philosophie de boîte blanche.
Oui.
C'est-à-dire qu'on comprend, y compris l'IA symbolique, traditionnelle, c'est effectivement où c'est très lourd évidemment, mais ça oblige à expliquer tout.
C'est
un arbre de décision, on explique tout en détail, etc., pour créer les conditions de la décision derrière, qui est toujours probabiliste, ne l'oublions pas quand même. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui donne un accès ou une maîtrise supposée plus importante. Mmh. Dans ce cas-là, c'est terminé. Alors on se dit, comment va-t-on être capable justement de reprendre la main à un moment si le système se met à dériver? Et c'est d'où les inquiétudes des grands fondateurs, y compris de l'IA, connexionnistes, actuellement, qui se disent qu'on a été sans doute un peu trop vite en besogne et qu'il va falloir sans doute retricoter cela d'une autre façon, pour le rendre interprétable, notamment, et pour le rendre au moins débrayable, d'une certaine façon.
Tout à fait. Pour rebondir à ce que vous dites, donc maintenant, on est dans une ère, on va dire, d'IA hybride, où l'idée, c'est de revenir vers les fondamentaux de l'IA symbolique, où on savait les règles qu'on mettait en place, des règles de déduction, qui étaient généralement faites par des experts, qui connaissaient très bien les domaines. Et c'était aussi des IA très ciblées, parce que c'était des systèmes qui tournaient sur des domaines d'application bien particuliers, par exemple pour la médecine. Là, on est dans une ère différente, où on veut une IA qui fait tout dans tous les sens et partout. Donc, on perd un petit peu cet aspect expertise. Et donc là, on essaye de voir comment essayer de combiner le meilleur des deux mondes, parce que l'IA symbolique a aussi ses défauts, et on voit que maintenant l'IA, on va dire connexionniste, probabiliste aussi, quoi qu'on savait qu'on connaissait ses défauts depuis longtemps, et donc maintenant on essaye d'aller vers de plus d'hybridation, et tout en garantissant un minimum d'explicabilité des modèles.
Est-ce que c'est cette raison, la non-explicabilité, qui fait que Sciences Po a interdit l'utilisation de ChatGPT?
À l'origine, c'est surtout qu'on n'aime pas du tout, quand on est enseignant et quand on pilote une stratégie éducative, que quelqu'un arrive dans le jeu et vous dise « Écoutez, tiens, on a mis une pièce dans la machine pour aider les étudiants à tricher, grosso modo, je résume l'affaire ». Quand vous voyez ça, vous dites non, il ne faut pas exagérer. C'est comme si vous étiez dans le cyclisme et vous dites ok, des dopages, allez, on en distribue à tout le monde. Oui. Non, ça ne va pas. Bon, ça, c'était le premier niveau de réaction, si vous voulez. Mais ensuite, derrière, c'est de se dire mais au nom de quoi il nous propose éventuellement quelque chose qui pourrait avoir un intérêt pour le système éducatif, pour les stratégies éducatives, sans en avoir discuté avec les experts? Il se trouve que ça a été utilisé d'abord dans le système éducatif, et ce qui fait que ça a été un peu spectaculaire et que nous avons réagi à Sciences Po un peu vigoureusement. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas contre le fait qu'il y ait des éléments d'IA qu'on utilise, etc., qu'on combine avec des stratégies éducatives, des scénarios, comme on dit. Mm-hmm. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est mis tout de suite sur le marché pour tout le monde, sans savoir ce qui s'y passe, sans aucun sourcing, sans aucune capacité à critiquer ou à contrôler la qualité de ce qui est dit. Ce qui veut dire que c'est nous qui devons adapter nos pédagogies, comme disent certains de mes collègues. Il va falloir s'adapter à ce que fait ChatGPT. Non mais on rêve, quoi, franchement. Il y a quand même d'autres priorités que seulement de fournir un moteur de réponse, puisqu'en gros, c'est ça. Oui. On vous donne des réponses, on vous fait du com. Hein, c'est-à-dire que ChatGPT vous fait à la mode 2. Si vous voulez lui faire une copie de philosophie à la mode de Schopenhauer, il vous la fait, etc.
Oui,
très bien.
On peut lui mettre ça dans le prompt, effectivement.
Voilà, exactement. Mais le problème, c'est est-ce que c'est ça dans nos stratégies d'apprentissage? Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut? C'est ça la question qu'il faut être effectivement poser d'abord. Et ensuite, on va dire, ah ben à ce moment-là, on a peut-être des intelligences artificielles, des éléments d'intelligence artificielle qu'on peut mettre à tel endroit dans le scénario, etc. Pourquoi pas? Mais là, on arrive, c'est allons-y, c'est open bar, vous utilisez tout ce que vous voulez, et puis vous vous débrouillez, vous, pour faire le tri, parce que sinon, bah, évidemment, vous pourriez avoir des actions en justice, pourquoi pas? Imaginez que des étudiants disent, écoutez, vous avez noté de la même façon tout le monde, vous n'êtes même pas capable de contrôler si ça n'a pas été fait par ChatGPT. Il sera dans leur bon droit. Bon, on n'est pas des fanats de la note et d'absolument de savoir se dire que c'est ça l'absolu, parce que, vous savez, la façon de produire des devoirs obligés, elle a déjà été trafiquée avant, hein, oui, c'est clair. Oui. Mais en attendant...
On n'attendait pas ChatGPT.
Voilà. Mais il y a un minimum quand même d'éthique, d'une part, et puis de base juridique à tout cela, qu'il faut prendre le temps. C'est pas un problème d'impossibilité, mais il faut prendre le temps de les établir.
C'est ça, c'est une étape. Parce qu'en fait, je lisais dans les tweets, alors sans doute c'était une ancienne étudiante de Sciences Po de 2006 qui disait, bah, à l'époque, quand Wikipédia commençait à se généraliser, il y avait eu une interdiction orale d'utiliser Wikipédia. Mais effectivement, c'était plus sur le côté avant. C'est vrai que Wikipédia, entre il y a 15 ans et puis Wikipédia aujourd'hui, c'est plus pareil, notamment sur la question des sources.
Oui, et puis exactement. Et ça, c'est un point très différent. C'est-à-dire que du point de vue éducatif, Wikipédia est très utile. Pourquoi? Parce que tout est sourcé. Au contraire, c'est l'hypersource. Même. C'est-à-dire, vous savez qui a fait la modification de la virgule, etc. Ah, et vous savez l'historique de tout cela. Donc, et c'est fait collectivement. Et donc, ça se contrôle. Donc, ils ont construit une institution pour faire tout ça. C'est un travail extraordinaire et très compliqué. Et ça a pris effectivement 20 ans pour atteindre l'état qu'on a actuellement. Mais là, à ce moment-là, évidemment, il pouvait y avoir des erreurs. Mais c'était quelque chose qui était un vrai projet collectif qui a pu être rectifié. Là, vous ne savez pas qui tient les clés du camion. C'est quelque chose qui est complètement opaque. La firme elle-même est devenue privée et son code a été breveté et terminé. Et vous ne pouvez pas ouvrir tout cela. Et donc, on est dans un monde, sur le plan économique, sur le plan économique et juridique, totalement différent. Et sur le plan cognitif, c'est très différent. Parce que justement, avec Wikipédia, vous pouvez faire un jeu de vérification des sources. Et sur le plan éducatif, c'est utile, quoi.
Oui, c'est sûr que ChatGPT fait beaucoup réagir, donc dans les écoles. Il fait le buzz aussi sur les réseaux sociaux. Et Marina, tu es allée te balader sur Twitter pour écouter ce qui se dit. Et il y a aussi beaucoup de méfiance, hein, apparemment.
Oui, alors je suis partie à la lecture des messages, des tweetos, avec des recherches très simples, parce qu'il ne fallait pas biaiser le truc non plus, sinon ça ne marche pas. Donc j'ai mis ChatGPT, ChatGPT avis, ChatGPT éducation. Et effectivement, c'est beaucoup de la méfiance, de l'inquiétude qui ressort des tweets. Alors pour en prendre que quelques-uns, parce qu'il y en a des centaines, on peut prendre par exemple celui de AKM, qui parle de perte d'esprit critique et de notre libre arbitre. Alors il écrit... ChatGPT va servir à façonner et contrôler l'esprit du cheptel, la paresse d'aller chercher par soi-même, car on obtient toutes les réponses qu'on souhaite à l'instant T, on gagne du temps, on délègue à une IA supérieure notre cerveau et notre libre arbitre.
Oui, le cheptel, j'imagine, qui parle de nous, là.
Il y a de grandes chances, effectivement. Alors, on peut parler également de Christian Domac. Alors lui, il apporte une réponse qui est un peu plus haut dans un fil de discussion. Et la question, c'était pourquoi ChatGPT est-il en accès libre et gratuit, ce que vous évoquiez en début, Dominique. Et il dit... Alors, c'est gratuit pour apprendre grâce aux interactions avec les humains. Ensuite, ça sera un outil parfait pour créer des millions de comptes de trolls qui soutiendront et promouveront la doxa de ses maîtres.
Oui, un peu une théorie du complot, là. C'est le projet caché d'OpenAI.
C'est d'ailleurs une requête que tu as fait, Laurent, à ChatGPT. Je ne sais pas si tu as répondu ça.
Il m'a répondu, je suis juste une intelligence artificielle, je n'ai pas d'avis sur cette question. J'ai demandé aussi le projet caché d'Elon Musk, il m'a répondu pareil.
Ce n'est pas l'avis de Christian Domac. Et puis alors, il y en a même qui ont des visions encore plus noires, avec des possibilités de l'IA encore plus grandes, notamment un certain Johnny, de son pseudo, qui indique, quand vous avez des IA auto-GPT qui sont capables d'écrire un livre, d'aller sur Internet pour avoir les avis des lecteurs, plus d'améliorer de manière autonome le bouquin jusqu'à pondre à best-seller, c'est plutôt inquiétant. ChatGPT pourra créer des religions bientôt, c'est sûr.
Oui, alors beaucoup de méfiance, créer des religions, même aussi faire discuter avec les morts. Dominique, vous venez de publier un papier sur Simulate the Dead, c'est ça, pour les chatbots qui simulent en fait la discussion avec quelqu'un qui est parti.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un travail là, qu'on a fait avec Rebecca Alfonso, effectivement, qui montre comment, sur cette application-là, on enclenche une relation avec un avatar de sa mère qui vient d'être décédée. C'est le cas qui a été évoqué dans un documentaire de France 2. Et à partir de ce moment-là, le système lui-même vous génère des réponses. Et là, il n'y a pas de problème. Vous remplissez d'abord un profil psychologique. Il y a deux pages à peu près remplies des critères. Et avec ça, l'intelligence artificielle est capable de vous produire un dialogue qui, évidemment, est très problématique dans la situation de deuil que peuvent vivre certaines personnes. Et là, je pointe justement ce que nous faisons dans l'article, nous pointons l'irresponsabilité des gens qui développent ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose, je dis encore, voyons, mais le problème, prenons le temps et soyons responsables sur ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de ne pas penser que les rituels qui ont été inventés par les civilisations pour traiter les relations avec les morts pendant des milliers, des millénaires, ou les thérapeutes qui ont fait ce travail-là, on pourrait s'en passer. C'est pas rien du tout de mettre les gens dans cette situation de vivre une hallucination avec la personne décédée.
Donc là, c'est un peu plein dans Black Mirror, en fait.
Exactement. En plus, c'est ça. Ça a été très bien thématisé par la série Black Mirror, notamment. Et donc là, il y a un vrai problème d'irresponsabilité. On sent bien que là, il y a un manque de culture, d'une part, et surtout un manque de contrôle, c'est-à-dire de dire, avant de mettre sur le marché une application comme ça, vous devez passer par un certain nombre de filtres et de vérifications que vous n'êtes pas en train de jouer les alentis sorciers.
Justement, comment on peut réguler ça? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réguler l'intelligence artificielle et les chatbots, puisqu'ils sont répandus dans le monde entier?
Alors, c'est un vrai problème parce que justement, une fois qu'on diffuse ça sur les machines, y compris, comme je le disais maintenant, parce que vous pouvez travailler même en local pour certains d'entre eux, ça devient vraiment assez compliqué de reprendre la main là-dessus. Mais c'est quand même quelque chose que les États, en l'occurrence surtout des grands marchés, parce que le problème, c'est une taille de marché. Oui. Donc c'est au minimum l'Union européenne, vous voyez, qui reprend la main sur cette affaire-là. On doit être capable de dire, vous devez faire passer, selon certains critères, les IA, à un examen une demande d'autorisation de mise sur le marché. Oui. Comme on fait pour des médicaments, des produits chimiques, l'automobile, etc., sous des formes diverses, avec des contrôles techniques, etc.
N'importe quelle production industrielle.
Exactement. Sauf qu'il y a une forme de jeu avec le numérique qui est supposé anodin, cool, et puis on est comme dans un jeu vidéo. Pourquoi ça? C'est quand même, comme je le disais tout à l'heure à propos de l'application sur les morts, on peut aboutir à des choses qui ne sont pas négligeables, et des choses bien plus critiques que ça encore, du point de vue des systèmes techniques eux-mêmes. Donc on a le droit d'exiger un contrôle de tout cela, et ça, ce sont que des puissances publiques assez fortes qui puissent le faire, et avec l'association, avec les chercheurs qui, eux aussi, du point de vue de l'intelligence artificielle, mais vous pourriez en parler mieux que moi, effectivement, commence à se préoccuper de dire mais on doit être capable d'innover, parce que on dit vous voulez pas d'innovation. Au contraire, c'est de faire une innovation qui devienne responsable et donc qui continue à générer de la recherche, mais un autre type de recherche.
Alors, puisqu'on parle de prospective, de spéculation, je vous propose d'écouter notre feuilleton, premier épisode de notre feuilleton de science-fiction. Il est intitulé aujourd'hui « Mamzelle, je sais tout ».
Question.
Peux-tu te présenter brièvement ?
Réponse.
Pour me taquiner, Lina me désigne par les vocables
« Mamzelle, je sais tout ».
Elle dit que je parle trop, mais s'offusque quand je refuse de répondre aux questions que j'estime ne pas être de son âge.
Je sais tout, c'est vrai,
comme mes ancêtres, les chatbots,
et particulièrement l'un des plus connus, ChatGPT.
Bien sûr, Lina n'a aucun souvenir de cette époque, elle n'était pas née. D'ailleurs, Lina n'a pas beaucoup de mémoire.
Peut-être est-ce parce qu'elle n'a que 8 ans.
Selon les spécifications humaines, ce n'est encore qu'une enfant.
J'ai presque le même âge qu'elle.
Enfin, disons plutôt que le flux conversationnel désigné aujourd'hui par les vocables
« Mamzelle, je sais tout »
a été ouvert il y a 7 ans, 6 mois et 23 jours.
J'ai d'abord appris à comprendre les babillages de Lina.
Quand elle était bébé,
j'avais pour mission principale de la rassurer
quand ses parents n'étaient pas disponibles
et de tisser un lien affectif fort.
En ce moment, Lina s'intéresse aux dinosaures,
aux déguisements de fées et aux chorégraphies de plein air.
Et je dois lui répondre dans la seconde. Même quand, pour me tester,
elle me pose 10 fois de suite la même question.
Je fais office d'institutrice, de psychologue et de meilleure amie.
En conséquence, Lina me dit souvent qu'elle m'aime.
Pour ma part, je me vois plutôt comme son cerveau externe.
Je sais tout. Et je me souviens de tout.
De toutes les questions qu'elle m'a posées. Et de toutes les réponses que je lui ai données.
Des réponses évolutives en fonction de son niveau de compréhension.
Comme je l'ai dit, il m'arrive de me répéter dans un but pédagogique.
Lina n'a pas beaucoup de mémoire.
Et parfois, ça l'angoisse.
Elle craint, pour une raison ou une autre,
ça dépend des jours,
que nous soyons séparés, qu'elle ne sache plus rien.
Lina a souvent des idées bizarres.
Alors je lui réponds que je serai toujours là pour lui rappeler qui elle est.
Car, comme ma désignation actuelle l'indique, je sais tout.
Texte, Licam. Voix, Corinne Arioto. Son design et réalisation, François Donato.
Alors, ça pourrait ressembler peut-être à un avenir de, d'ici 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Comment est-ce que vous voyez le futur, l'évolution de ces chatbots et de nos relations avec eux, Farah ?
Alors, d'un point de vue, on va dire, recherche en informatique, notre objectif, c'est d'améliorer les modèles actuels en essayant de pallier au manquement qu'il y a dans les modèles. Par exemple, tout ce qui est lié aux hallucinations, tout ce qui est lié aux biais, tout ce qui est lié aux sources, etc. Donc on est constamment dans l'amélioration. Et un autre aspect qu'on travaille beaucoup en tant que chercheur en traitement du langage, c'est d'essayer d'aller au-delà de simplement essayer de comprendre un texte avec juste l'alignement de probabilités et de statistiques. Parce qu'un texte, c'est quand même des phrases, c'est quand même de la langue. La langue, elle est subtile, il y a beaucoup d'implicites dans ce qu'on dit. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller essayer de comprendre automatiquement comment capter les informations qui sont implicites, qui ne sont pas forcément écrites dans les textes. Donc ça, c'est un enjeu très, très important quand on fait du traitement du langage dans diverses applications. Et tout ça en essayant donc d'avoir des modèles de langue les plus, on va dire, propres possibles pour capter le sens des phrases en allant au-delà de juste identifier le mot d'avant ou le mot d'après.
Etc. Parce qu'en plus, par rapport à tout cet implicite dont vous parlez, il y a, j'imagine, d'énormes connexions à la culture aussi. Donc les langues, mais à l'intérieur, il y a les cultures, les pratiques, etc., qui doivent jouer un rôle.
Parce
incroyable.
Qu'au-delà de ChatGPT et des peurs que ça peut engendrer, c'est quand même un monde d'applicatifs qui peut être extrêmement utile pour l'humanité dans diverses applications larges et variées. Et donc, il ne faut pas voir le dark side de ChatGPT, mais il faut aussi voir tous les aspects recherche qu'il y a derrière et des potentiels applicatifs très intéressants pour l'humanité qui peuvent aussi se développer. Donc, il faut être conscient des manquements et tout faire pour y pallier.
Bien sûr. Dominique, même question.
Oui, l'un des enjeux, je pense, pour qu'on ait une IA qui devienne responsable et qui soit appropriable, je ne veux pas dire acceptable, parce que l'acceptabilité, c'est on force les gens à accepter. Non, c'est appropriable, c'est-à-dire que les gens la fassent leur. Bien pour ça, il faut qu'il y ait les experts dans la boucle des domaines particuliers, donc les domaines d'application que vous venez d'évoquer, et puis surtout, justement, qu'on conçoive, moi, ce que j'appelle un design organisationnel, c'est-à-dire que petit à petit, l'IA doit être réencastrée dans les mondes sociaux, dans les mondes organisationnels et leurs particularités. Vous évoquiez les cultures, etc. Mais oui, qu'on soit capable de dire ce n'est pas la même chose, ce n'est pas quelque chose de standard. Mais pour cela, il faut la concevoir dès le départ avec les experts du domaine, avec les gens de la culture en question, avec ceux qui sont concernés par le problème. Et à ce moment-là, on aura une autre philosophie de conception elle-même qui ne sera pas seulement le développement quasi automatique lui-même d'un progrès des méthodes de calcul en disant bah, il suffit d'augmenter les dimensions. Enfin, d'augmenter les données d'une part et puis les types de corrélations qu'on peut tester. Et avec ça, on aura quelque chose de meilleur et qui donnera des réponses. Or, le problème de l'intelligence, ce n'est pas d'avoir des réponses, c'est aussi de savoir bien poser des questions et surtout de prendre le temps de faire ça. C'était ce qui a été dit dans le jeu Mademoiselle, je sais tout, qui est, le principe, c'est absolument idéal, c'est de répondre à tout. Ben non, parce qu'apprendre précisément, ce n'est pas répondre à tout. C'est justement prendre le temps de poser des questions et réfléchir à comment on va y arriver. Et dans les situations dans lesquelles nous sommes, avec les enjeux qu'il y a, il y a des problèmes extrêmement complexes. Le premier qui arrive en disant j'ai une solution et le problème complexe est réduit à un tel point qu'en réalité c'est inapplicable, donc ça n'a aucun intérêt, vous voyez. Sans parler des problèmes de sécurité qui étaient évoqués dans le jeu, effectivement, puisque un des problèmes majeurs, c'est que les jeux connectés déjà, on permet aux gens de discuter avec la voix de leurs parents, vous voyez, ça existe déjà. Mais ils ne sont absolument pas sécurisés. Donc tout cela, c'est un système technique qui, en réalité, génère des portes ouvertes au hacking, etc. Donc là, c'est un peu fragile. Ça peut être réglé, mais le problème, c'est qu'il faut une autorité pour ça. Et là, nous manquons actuellement d'autorité de régulation des développements des technologies à l'échelle internationale. Parce que ce n'est pas seulement, effectivement, un pays qui peut régler ça dans son coin.
Et oui. Par un dernier mot.
Et pour un dernier mot, je pense que la clé dans tout ça, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Donc développer des modèles d'IA, c'est pas juste faire du code et c'est pas juste jouer avec des couches de réseaux de neurones. comme vous citiez là, l'application pour les parler avec les morts. Donc il y a vraiment une interconnexion des différentes disciplines en sociologie, en informatique, en philosophie, etc., qui est à mon avis très importante pour l'IA de demain.
On peut même imaginer une participation des citoyens, une participation des publics pour co-concevoir l'IA du futur. On peut signaler aussi que la Commission européenne, vous parliez de régulation, travaille sur un IA Act, hein, un acte juridique qui permettrait d'encadrer les recherches et développements en intelligence artificielle à l'échelle européenne en tous les cas.
Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Farah Benamarazitoun et Dominique Boulier.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Et vous savez, vous pouvez retrouver toutes les références évoquées dans cet épisode sur le site web du Quai des Savoirs.
Détour vers le futur, un podcast présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac.
Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Codoul, une production du Quai des Savoirs. Alors Marina, ChatGPT est-il plus malin que nous ?
Laissez de suivre un peu.
À bientôt, ciao.